Nous demeurons dans cette attitude de prière avant de nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Je demanderai simplement qu'on diminue un tout petit peu la vitesse du plafonnier juste au-dessus de moi, un tout petit peu. Autrement, toutes les feuilles de ma Bible partiraient dans tous les sens. Inclinons donc nos têtes dans la prière et nous voulons nous préparer à écouter la parole de Dieu. De tout cœur, nous voulons te dire merci pour ce privilège, Seigneur, qui a été le nôtre, de t'exprimer nos sentiments de louange, d'adoration. Ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur, de nous réjouir en ta présence. Car c'est lorsque nous demeurons en ta présence, lorsque, Seigneur, ton esprit a agi en nous en toute liberté, qu'alors nous accomplissons notre raison d'être ici-bas. Merci de nous avoir sauvés par ta mort à la croix, d'avoir donné ta vie, Seigneur, au Dieu, afin que nous qui étions morts dans nos offenses, qui étions séparés par la rébellion, au Dieu, séparés de Dieu par la rébellion et par toutes sortes de choses abjectes et scabreuses, un jour tu nous as attirés à toi, tu nous as sauvés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as revêtus d'un manteau de justice, et désormais nous faisons partie de ta maison. Et merci pour tout cela. Et étant membre de ta maison, étant sacrificateur dans ton royaume, Seigneur, tu t'attends à ce que nous puissions, ô Dieu, apprendre à marcher en demeurant dans ta présence, à réagir et à faire quoi que ce soit depuis ta présence. Pourquoi, après t'avoir loué, adoré, t'aider à demeurer encore dans ta présence, afin que depuis ta présence, ô Dieu, nous puissions recevoir ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, fortifie-le, donne-lui toute l'intelligence, la grâce dont il a besoin pour être simplement ton porte-parole auprès de ces brebis que tu as tant aimées au point de donner ta propre vie à Golgotha pour chacune d'elles. Oui, donne-moi, Seigneur, de m'adresser, ô Dieu, à chacun de nous, comme à des âmes que tu aimes, comme à des âmes qui ont du prix à tes yeux, des âmes qui méritent le respect. Seigneur, merci pour tout. Parle-nous, fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais aujourd'hui, au travers de mon message, mettre en garde chacun de nous et l'Église du Seigneur en général contre certains dangers, en particulier deux dangers principaux qui nous guettent tous, alors que nous sommes encore sur cette terre, poursuivant notre marche dans la sanctification, alors que nous sommes encore dans l'espace et dans le temps, eh bien, et marchant par la foi, et alors que nous sommes encore sur cette terre, il y a donc des choses, il y a donc des dangers qui nous guettent, et aujourd'hui j'aimerais parler de deux dangers majeurs qui guettent chacun de nous, comme individu, comme membre du corps du Christ, disciple de Jésus, comme chrétien, né de nouveau, mais aussi le danger qui guette l'Église en général. Alléluia. Le thème de mon message est la nécessité de mener une vie chrétienne équilibrée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà un mot qu'on entend rarement, le mot équilibre. Et pourtant, c'est un mot qui devrait faire partie non seulement de notre langage, mais ça devrait être également une réalité que nous expérimentons au quotidien. Car là où il n'y a pas d'équilibre, eh bien, il y a le déséquilibre. Et le déséquilibre, quel qu'il soit, et ce, quel que soit le domaine de notre vie, finit toujours, hélas, par entraîner toutes sortes de choses, par nous amener vers toutes sortes de catastrophes. Voyez, d'où la nécessité d'en prendre conscience. La nécessité de mener une vie chrétienne équilibrée. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens, Paul aux Philippiens, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Nous lisons. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, dit l'apôtre, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si, sur quelque point, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères, portez le regard sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en grand. Fin, leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui est ou dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Faut-il rappeler à chacun de nous que l'existence humaine, eh bien, s'articule autour de deux axes majeurs, deux axes principaux. Toute existence, quelle qu'elle soit, eh bien, s'articule toujours autour de ces axes-là. Le premier axe majeur, eh bien, c'est l'axe vertical. Là, nous sommes dans la verticalité. Et ceci concerne donc tout ce qui est des natures à connecter l'homme au divin. Tout ce qui est des natures à brancher l'homme sur le monde invisible, le monde que nous appelons le monde spirituel. Tout ceci nous parle du fait que l'homme n'est pas seulement ce corps de chair, n'est pas seulement ce vase d'argile. Il y a dans l'homme une dimension spirituelle et de par cette dimension, eh bien, l'homme est appelé à évoluer dans l'univers spirituel. Voyez-vous, il est appelé donc à être en communion avec le spirituel. Soit il est en communion avec le Seigneur, et la Bible nous dit que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Soit il est en communion avec un autre esprit que l'esprit de Dieu. Et un autre esprit qui domine le monde, puisque la Bible est claire, elle est formelle là-dessus, le monde entier gît dans le malin, eh bien l'autre esprit, c'est l'esprit du diable. Où on est avec Dieu, et on reste soumis, branchés, connectés à lui, spirituellement parlant, et on marche avec lui par la foi, puisque avec ou dans ce monde invisible, il y a un élément qui nous permet de nous émouvoir, c'est la foi. Ou alors, on n'est pas en communion avec Dieu, on n'est pas en communion avec son Saint-Esprit, on est en communion avec l'autre esprit, avec le diable. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas, c'est l'un ou l'autre. Pas le deux à la fois, voyez-vous, ou pas l'absence de deux, en disant, voilà, je ne suis ni avec Dieu, ni avec l'autre esprit, pas du tout. Si on n'est pas avec Dieu, eh bien forcément, on est avec l'autre. Ça, c'est le premier axe autour duquel notre existence s'articule, c'est dans la verticalité. Deuxième axe majeur, c'est donc l'axe horizontal. Il est donc ici question du rapport de l'homme à l'humain, à l'autre, du rapport de l'homme avec l'environnement dans lequel il vit. Nous vivons dans un environnement humain, dans une société, et nous sommes appelés à interagir avec notre environnement, avec le milieu dans lequel nous vivons. Vous voyez, tout ce qui affecte notre milieu aura d'une manière ou d'une autre un impact sur notre vie. Il n'y a pas de position de neutralité. Une sorte de no man's land, pas du tout. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons faire tout pour amener l'évangile dans la société. Si nous n'amenons pas la vérité dans la société, eh bien, c'est le mensonge qui va donc avoir droit de cité dans la société. Et si nous ne faisons pas très attention, eh bien, cette société, gangrénée par par le mensonge finira par nous influencer et par nous écarter de la vérité. Plus il y a de gens qui sont dans la vérité, plus l'influence de la vérité va se faire sentir. Alléluia. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Gloire à Dieu. Tant que nous demeurons en lui, eh bien, tant que nous restons connectés à lui, tant que son esprit agit en nous, eh bien, nous sommes et nous demeurons la lumière du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, sur cet axe horizontal, l'homme a sa responsabilité vis-à-vis de l'autre. Vous ne pouvez pas ignorer l'autre, vous voyez? Si vous laissez l'autre être, détruit par tel ou tel autre virus, vous risquez que ce même virus vous atteigne, vous voyez? Non seulement une responsabilité vis-à-vis de l'autre, mais aussi notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement. C'est là que l'écologie, la vraie, pas cette écologie politique qui essaie de s'imposer par toutes sortes de diktats, mais je parle de la vraie écologie, c'est-à-dire de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la nature. Dieu est le créateur de la nature. Dieu a placé l'homme sur cette terre, environné de cette nature. Et je vous dirais que la condition de la nature va soit permettre à l'homme de mener une vie qui soit en accord avec la nature et qui lui permette d'avancer, c'est-à-dire recevoir régulièrement l'oxygène dont il a besoin, ou soit alors l'homme, dans son irresponsabilité, pollue la nature. Et quand on pollue la nature, on finit toujours, mes amis, par récolter des fruits amers. C'est comme ça que souvent, chez nous ici, nous avons des cas de maladies. Quand on voit la manière dont certaines personnes vivent, quand on voit tous ces déchets qui ont été enlevés des caniveaux et qui sont là devant, mes amis, le long de la route et en face, il y a des gens qui y vivent. Je voyais encore ça, je me dis, mais ça c'est la porte ouverte à toutes sortes de microbes, à toutes sortes de bactéries. Voyez, en attendant que l'État fasse son travail, mais vous pouvez au moins enlever ça. Vous savez, en Europe, chacun est responsable du trottoir. Eh oui, le trottoir. En hiver, vous devez enlever la neige devant, sur le trottoir, là où votre maison donne. Si jamais quelqu'un tombe parce qu'il y a du verglas, eh bien vous êtes responsable. Vous pouvez être poursuivi. Il faut que nous nous réveillons. C'est notre responsabilité. Vous pouvez enlever les déchets qui traînent chez vous. Non, on trouve normal. Voyez, on voit des gens qui boivent dans des taxibus ou dans des bus ou dans des taxis. Ils boivent de l'eau, hop, sur la route. Et on se plaint qu'il y ait toutes sortes de maladies. Il y a des bactéries qui sont foudroyantes, qui sont mortelles, mes amis. Après, oh, j'ai été empoisonné. Voilà. Oh, ça ne va pas, les démons s'acharnent contre nous. Non, c'est l'environnement. Gloire au Seigneur. Il y a des sociétés où les gens vivent beaucoup plus longtemps que chez nous. Alors que dans ces sociétés-là, c'est l'idolâtrie totale. On adore les hommes, on adore des démons. Et pourtant, les gens vivent jusqu'à 80, jusqu'à 90 ans, 90 ans. Mais chez nous, combien meurent jeunes? L'environnement y est pour quelque chose. Voyez, toutes ces particules qu'on rejette dans la nature, le monoxyde de carbone ou d'azote, mes amis, finissent par devenir de véritables problèmes. On développe toutes sortes de pneumonies, des problèmes en rapport avec les poumons, parce que on inspire, vous voyez, toutes ces particules qui finissent par s'accumuler dans notre corps, par déstabiliser notre système et par ouvrir la porte à toutes sortes de cancers. Vous voyez? Donc, c'est donc notre responsabilité. Tout ceci veut dire quoi? Tout ceci veut dire, mes amis, que l'homme évolue à la fois dans l'espace et dans le temps, mais aussi dans le monde invisible. Alléluia. C'est d'ailleurs ce qui fait une de ses singularités. Il est à la fois branché sur le spirituel, il évolue à la fois dans ce monde spirituel régi par des lois qui n'ont rien à voir avec les lois qui régissent notre univers physique, et en même temps, cet homme est sur la terre, et par conséquent, il est dans l'espace et dans le temps. Et pour qu'il vive une vie plus épanouie, mes amis, il doit essayer de trouver un équilibre. par rapport à ces deux réalités. Alléluia. Gloire au Seigneur. La qualité donc de vie que nous allons mener dépendra de la manière dont nous allons gérer ces deux aspects, l'aspect vertical et l'aspect horizontal. Il est donc important que nous trouvions un certain équilibre, un équilibre qui est nécessaire entre les deux. Autrement, nous courons le risque d'aller au-devant de toutes sortes de problèmes. Le déséquilibre est à la base de beaucoup, beaucoup de problèmes sur le plan personnel, sur le plan conjugal, au niveau de la société. Tout cela parce qu'il y a un déséquilibre, voyez-vous. Donc, en tant que chrétiens, nous devons savoir que cette vérité est aussi valable. Voyez, nous sommes appelés à rester en contact avec le Seigneur, à marcher par et au travers du Seigneur, à marcher en étant mus par le Saint-Esprit, mais nous ne devons jamais ignorer que nous sommes encore sur la terre. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous jouissons d'un privilège singulier, d'un privilège extraordinaire, qui est donc celui d'avoir une relation vivante, une relation existentielle avec notre Dieu. Par Jésus et au travers du Christ, eh bien, nous sommes en contact avec le ciel. Alléluia. Nous communions avec lui. Nous l'adorons en esprit et en vérité. Voyez, c'est un privilège énorme. Alors qu'en dehors du Christ, les gens sont en communion avec l'autre monde spirituel, hélas, qui est géré, qui est conduit, qui est dominé par les puissances démoniaques. Oui, la Bible est formelle. Par Jésus, au travers de Jésus, le chrétien est devenu, il est devenu citoyen du ciel. Nous l'avons lu, hein. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Oui, notre cité est dans les cieux. Oui, nous avons cette dignité d'enfant de Dieu. Oui, nous avons nos passeports célestes. Et ceci est une bonne chose. D'ailleurs, l'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, va donc appuyer cette vérité en disant, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Alléluia. Nous devons marcher avec la mentalité d'en haut, parce que notre vie est cachée en Christ. Christ est assis à la droite du Père, et notre vie est en lui. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devrions jamais nous inquiéter de quoi que ce soit. Aucun démon, aucun esprit impur, quel qu'il soit, aucun sorcier, aucun homme, quelle que soit sa puissance, son pouvoir, ne peut arriver, mes amis, à escalader l'échelle du temps et de l'éternité pour arriver jusqu'au trône de la grâce afin d'aller détruire notre vie. C'est impossible. Notre vie est cachée en Christ. Alléluia. N'ayez pas peur des démons. Des démons et même des sorciers. Ne leur octroyez pas le pouvoir qu'ils n'ont pas. On entend encore des chrétiens qui croient que tel a le pouvoir de se transformer en corbeau ou en lézard. Et des chrétiens qui défendent ça, allez. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir. Il peut, à partir d'une pierre, faire un être vivant. Ou vice-versa. Sa parole est sa parole seule créatrice. Aucun homme n'a le pouvoir de se transformer en pigeon. Pas du tout. Voyez ? Oui, il y a dans la magie, la haute magie, des expériences mystiques qui amènent les gens à faire ce qu'ils appellent un voyage astral. Mais c'est spirituel, c'est pas le corps. Vous ne pouvez pas avoir ce pouvoir-là, autrement vous seriez l'homme le plus fort du monde, oui ou non? Vous n'auriez pas besoin des scènes pour aller à Bruxelles? Non? Vous voilà, sur la grande place de Bruxelles. Voyez, vous faites vos emplettes, votre shopping, et puis, bam, vous voilà Matongé, gloire à Dieu. Ça serait tant facile. Il n'y a que Dieu. Philippe, après avoir prêché la parole de Dieu à l'unique éthiopien, il a disparu parce que Dieu l'a enlevé. Oh, alléluia. Il n'y a que lui qui a le pouvoir, mes amis, d'aller à l'encontre de lois spatio-temporelles qu'il a établies. Nous sommes dans le temps. Eh bien, nous devons nous déplacer d'un point A au point B. Et pendant que nous nous déplaçons, nous restons soumis à cette donnée que le temps. Vous ne pouvez pas vous en passer. Vous ne pouvez pas dire, maintenant j'arrête la marche de la terre. Il n'y a que lui, et lui seul. Il a arrêté pour permettre à Josué de poursuivre le combat. Gloire au Seigneur. Oui, nous sommes donc des citoyens célestes. Oui, nous sommes appelés à vivre avec la mentalité d'en haut. Oui, tout cela est vrai. Mais cependant, le chrétien est encore sur la terre. Voyez-vous, il fait partie de l'église de Jésus. Cette église que le Seigneur est en train de bâtir ici sur terre. Et non pas sur une autre planète, dans le cosmos. Non, c'est sur terre qu'il est en train de bâtir cette église. Et par rapport donc à cette situation, cette église qu'il est en train de bâtir sur cette terre, cette église qui est donc composée des hommes et des femmes qu'il est allé chercher dans le monde, cette église-là est menacée par deux dangers majeurs. C'était le cas pour l'église du Nouveau Testament, si vous étudiez, et vous allez le comprendre dans la suite du message, c'était le cas donc dans l'église du Nouveau Testament, c'était le cas dans l'église de Philippiens, ou des Philippes, c'est encore le cas aujourd'hui, ces deux dangers restent et demeurent. Quels sont donc ces deux dangers qui menacent l'église de Jésus-Christ? Les dangers qui menacent chacun de nous. Le premier danger, c'est de vouloir vivre le ciel sans la terre. Vivre le ciel sans la terre. Eh bien, le verset 12 à 16 est clair par rapport à tout ça. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent que, eh bien, ils sont déjà arrivés au ciel. Alors, ils développent une autre vision qui est partielle, évidemment, de la vie chrétienne. Voilà. On s'intéresse exclusivement aux choses du ciel qu'on finit par croire qu'on y est déjà. Vous voyez? Qu'on y est déjà, qu'on est déjà installé au ciel. Et puisqu'on est déjà installé au ciel, eh bien, toute faiblesse ne devrait plus se retrouver parmi les chrétiens. Voyez-vous? Puisque nous sommes déjà installés au ciel, eh bien, le péché ne devrait plus se manifester. Alors, on se retrouve avec une autre vision où les gens pensent qu'ils peuvent atteindre la perfection ici-bas, où les gens pensent qu'ils peuvent vivre le ciel sans la terre. Non, nous avons un pas dans le spirituel, mais l'autre pas est encore sur terre. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Puisque les gens vivent ou essayent de vivre le ciel sans la terre, et comme au ciel, ou comme dans le royaume de Dieu, il n'y a ni souffrance, il n'y a ni péché, il n'y a ni larmes, il n'y a ni deuil, eh bien toute maladie dans l'Église et chez le chrétien est ressentie et dénoncée comme étant un péché ou la conséquence, mes amis, d'une désobéissance à Dieu. C'est ainsi que vous trouverez dans certains milieux où on essaie de faire croire aux disciples du Christ qu'ils ne peuvent pas tomber malades. Dès lors que quelqu'un, un frère ou une sœur est malade, oh, tu n'as pas de foi. Car un chrétien, il est le prince du roi des rois. Christ a tout accompli. Oui, j'entends ce discours. Dieu a donné sa vie à la croix par Christ, c'est vrai. Mais on peut être chrétien rempli du Saint-Esprit et être emporté par un cancer. Voyez, vous savez ça? Je reviendrai sur là-dessus. Vous pouvez être un chrétien rempli du Saint-Esprit et un jour vous retrouver victime de la route et vous dire, mais Seigneur, tu aurais pu empêcher cet accident. Eh oui, il y a des mystères, il y a des énigmes dans la parole de Dieu. Arrêtez avec cet évangile qui n'est pas biblique. L'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Oh, alléluia. C'est parce que nous avons oublié une chose. Nous essayons de nous asseoir ad vitam aeternam sur cette terre. Alors que
La mort, pour un enfant de Dieu, est une délivrance. Il s'en va. Voyez-vous? Il s'en va auprès de son maître. Maintenant, ce décès peut venir naturellement au terme d'une longue vie. Et puis un jour, on s'en va, emporté par une des maladies de la vieillesse. Ça peut être un diabète, ça peut être l'hypertension, ou comme vous le savez, les personnes âgées, eh bien, n'ont pas suffisamment d'immunité, d'anticorps pour résister à l'invasion de certaines bactéries. Elles sont très fragiles, voyez-vous. Dans certains pays, eh bien, quand par exemple l'automne approche, l'hiver approche, il y a la grippe. Eh bien, on sensibilise les personnes âgées, on leur demande de se faire vacciner. Parce que la grippe peut emporter une personne âgée. Voyez? Donc, on peut partir de cette manière-là. On peut partir de manière accidentelle. Ceux qui tiennent ce genre de discours ne lisent pas la Bible. Car il faudra qu'ils m'expliquent comment quelqu'un comme l'apôtre Jacques, le frère de Jean Zébédée, qui était apôtre, qui a prêché, vous pensez que lui, quand il était vivant, il n'a pas prêché la guérison? Il n'a pas prêché la délivrance? Mais comment expliquer que, malgré tout son engagement, toute son abnégation dans cette vie, dans cette marche avec le Seigneur, cet homme a été exécuté par Hérode? Dieu ne pouvait-il pas arrêter Hérode? Si, hein, puisqu'il a, dans le même contexte, quand Pierre a été arrêté, le Seigneur n'a pas permis qu'il soit exécuté. Il a envoyé un ange, oui ou non? Vous pensez que Pierre avait plus de foi que Jacques? Dites-moi. Vous pensez que l'Église n'avait pas prié pour Jacques, même si la parole de Dieu ne nous dit pas clairement? Les mêmes gens qui avaient prié pour Pierre, ils devraient aussi, et ils devaient prier pour Jacques. Cependant, le Seigneur en a décidé autrement. Voyez? C'est parce que nous vivons avec cette vision que quand on est enfant de Dieu, on ne peut plus souffrir, c'est faux. J'ai connu des hommes de Dieu qui ont été emportés par la maladie. Voyez-vous? J'ai connu des hommes de Dieu qui ont perdu leurs épouses, tout en servant le Seigneur. Voyez? J'ai connu des femmes de Dieu qui ont perdu leur mari. Voyez? Tout en servant le Seigneur. Attention, nous sommes encore sur terre, nous sommes en route. La priorité, c'est l'éternité. Tout ce que Dieu va permettre comme épreuve, eh bien, c'est pour, mes amis, nous perfectionner. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Donc, ça veut dire quoi? Paul aussi avait des défauts, il s'est battu. Il dit, je n'ai pas encore remporté le prix. Personne ne peut remporter le prix en étant sur terre. C'est parce que les gens pensent qu'ils peuvent atteindre la perfection sur cette terre, qu'ils vivent avec cette vision erronée, fausse, inappropriée, inadéquate. Le ciel sans la terre. Alors on est là. Tout ce qui nous contrarie, tout passage par un désert quelconque, financier, affectif, et même spirituel, est considéré comme la conséquence d'une désobéissance. Oui, une désobéissance peut nous entraîner sur une autre voie, nous écarter de la voie du Seigneur. Et quand nous nous retrouvons sur l'autre voie, eh bien nous nous exposons. C'est vrai, mais il y a aussi des épreuves qui arrivent, alors même que nous sommes consacrés à Dieu. Voyez? Il y a des couples aujourd'hui, des foyers, mes amis, qui passent par des moments difficiles, des foyers, des mariages qui volent en éclats. Non pas parce que le démon est venu, il a donné un coup à la femme est partie à gauche, il a donné un coup à l'homme est parti à droite, et il s'est installé au milieu. Mais il y a des couples qui aujourd'hui, eh bien, volent en éclats, connaissent toutes sortes de problèmes à cause du déséquilibre. Parce que, soit l'épouse pense que, eh bien, elle est appelée à vivre le ciel sans la terre. Elle est à l'église du lundi au dimanche. Vous voyez? Voilà. Le lundi, oh, nous avons programme, on monte. Mardi, on monte. Mercredi, on est à l'église. Jusqu'au dimanche, on rentre. Au point où certaines femmes ne sont plus à l'aise dans leur foyer. Voyez. Donc, dans leur maison, c'est comme s'il y a quelque chose qui les chatouille. Ah. Et comme aujourd'hui, avec nos GSM, là, on commence à appeler. Hé, maman, t'es Osananda. Tu es là. Ah, bon, je vais venir, nous allons prier. Alors que les enfants sont là, ont besoin de leur maman. Alors que le mari est là, il a besoin de son épouse. Et ceci, à la longue, entraîne des problèmes. À un moment, l'homme s'est dit, ok, tu as épousé ton église, au bas l'église. Ah, voilà. Maintenant, vas-y, je te donne la liberté. Voyez. Et l'homme s'en va. Il va chercher ailleurs. Après, on commence à prier, à pleurer. Oh, priez pour moi. Nous allons jeûner. Non, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu as mené une vie de déséquilibre. Voilà. Si cet homme t'a épousé, c'est pour que tu l'aimes. Et que lui, en retour, t'aime aussi. Si Dieu vous a donné les enfants, c'est pour que vous en preniez soin. Prendre soin de son foyer est aussi spirituel que de se retirer sur une montagne pour aller passer des choses. Gloire à Dieu. Alors, on finit toujours, vous le savez, mes amis, par récolter ce qu'on a semé. Vous ne pouvez pas vous attendre à récolter une vie plus épanouie, une vie réussie, une vie extraordinaire, si vous vivez comme si vous étiez déjà au ciel. Puisqu'au ciel, nous n'aurons plus d'autre chose à faire que d'adorer le Seigneur. Alléluia. Au ciel, la parole de Dieu déclare que tous les êtres, toutes les créatures élevées en dignité, les archanges, les chérubins et tout autre ange, à chaque instant se prosterne devant le Seigneur et proclame sa sainteté. Alléluia. Au ciel, nous servirons le Seigneur de manière éternelle. Nous l'adorerons, nous ne nous fatiguerons jamais. Mais sur terre, nous avons encore un corps limité. Si vous le surutilisez, ben, vous allez le regretter. Ça va être la fatigue. Et vous savez qu'avec la fatigue, vous devenez très vulnérable à la maladie, à l'invasion de microbes, de bactéries ou de toutes sortes de virus. Parce que vous êtes fatigué. Vous voyez ? Ouais. Si vous ne faites pas très attention, ben, vous risquez à un moment de vous fatiguer. J'en ai vu. J'ai connu une fille, d'ailleurs sa maman a prié avec nous ici, dans les années 80, puis elle est décédée, la maman. À un certain moment, eh bien, je ne sais pas si elle a voulu rattraper le retard, parce qu'à un moment, c'était aussi une fille fofolle. Hein. On vient à l'église parce que maman va à l'église. Voilà. Mais après, on dit au chauffeur, amène-nous dans telle boîte de nuit, etc. Et puis, bon, on vient à l'église parce que maman va à l'église. Et puis voilà, maman s'en va. On ne sait plus sur qui s'appuyer. Alors on se tourne vers le Seigneur. Et on pense qu'on peut récupérer le retard accumulé. Eh bien, à un moment, elle était plus qu'active à toutes les nuits de prière. À un moment, elle était fatiguée, elle a tout abandonné. C'est comme ça. Soyez équilibrés. Voyez, Dieu ne vous demande pas de vous auto-flageller pour lui. Il ne vous pousse pas au suicide. Se reposer, prendre du recul, prendre quelques jours de vacances est aussi spirituel. Oh, alléluia. Eh oui, il faut que vous entendiez ce message. N'essayez pas de vivre le ciel sans la terre. Vous êtes encore sur terre. Vous avez encore un corps vulnérable. Vous avez un corps fragile. Voyez-vous, un corps qui a besoin à un certain moment de repos, de dormir suffisamment. Voyez ? Un corps qui a besoin, certes, d'un certain soin, mais qui reste néanmoins corps. Oui, comme je disais, tout désert, quel qu'il soit, est interprété comme étant un manque d'engagement. Voilà. Quelqu'un passe par des moments difficiles. Ma sœur, tu devrais t'examiner. Est-ce que tu es vraiment consacré à Dieu? Oui, mais le Seigneur s'appelait même le Saint, loin. Le Messie, oui ou non? Mais il a terminé à la croix. Hein? Arrêtez de faire la morale aux gens. Lisez la Bible. Mais ne lisez pas avec un prisme subjectif, avec des œillères. Allez dans la Bible trouver des passages. Vous les tirez hors contexte, comme le réformateur l'a dit, un texte hors contexte devient un prétexte. Voyez ? Un prétexte pour vivre n'importe comment. Non, le repos. Voyez ? Le fait de s'asseoir, de souffler un peu, est aussi biblique. Voyez ? Vous n'allez pas gagner le monde entier. C'est de l'orgueil spirituel. Faites ce que Dieu vous demande. Commencez à Jérusalem dans votre famille. Voyez. Vous voyez toujours au loin. Je dois partir. Et pour ça, je dois faire 21 jours de jeûne. Des jeûnes irrationnels pour arracher les bénédictions de Dieu, comme on le dit souvent dans ce patois chrétien, dans la rhétorique actuelle. Le mot arraché a revêtu un sens tout à fait particulier. Il faut arracher les bénédictions. 21 jours jeûne. On veut arracher. Vous risquez d'arracher de fruits qui sont encore verts. Un fruit doit être arraché quand il est. Et pour que le fruit mûrisse, il faut un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son rythme. Alléluia. Ça, nous oublions souvent. Et pourtant, c'est important. Dans la gestion du temps. Vous savez, c'est un moraliste ou un fabuliste grec qui a dit ceci. Parler de l'évolution. Il a dit raisin vert, raisin mûr et raisin sec. C'est-à-dire, c'est l'ordre normal du chose. Il y a un temps où le raisin est vert. Voilà, mais tu ne vas pas précipiter le mûrissement de ce raisin. Et puis ensuite, seulement après un certain temps, après avoir été exposé au soleil, etc., toutes les conditions réunies, ce raisin devient mûr. Et après, il finit par devenir sec. Donc, ça c'est l'ordre de choses. Vous devez savoir que chaque chose a son temps. Chaque chose a son rythme. Vous ne pouvez pas accélérer les choses. Essayez, dites, courons le cocotier. Oui, dans certaines circonstances, ça marche. Mais chaque chose a son temps. Voyez, n'essayez pas de précipiter les choses. D'ailleurs, comme on dit, j'espère que ma mémoire ne va pas me faire défaut. Ne comptez jamais les poussins avant qu'ils ne soient éclos. Quand vous avez 20 heures, maquis, des œufs, vous dites, tiens, j'en ai 40. Je vais avoir 40 poussins. Et à partir de 40 poussins, vous commencez déjà à faire le projet. Voilà. Les 40 poussins, je vais les vendre à 7 euros. Non, la sagesse veut que vous ne comptiez pas les poussins avant qu'ils sortent de leurs œufs. Voyez-vous, car il n'y a que Dieu qui sait combien sortiraient, combien survivraient, même en sortant, combien survivraient. Et à la fin, combien atteindraient l'âge d'être appelés poulets. Gloire au Seigneur. Chaque chose a son temps. Chaque événement a son rythme. Voyez ? Vous pouvez teindre vos cheveux, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est formidable. Le vieux noircisse les cheveux pour paraître jeune. Et les jeunes font quoi? Les blanchissent. Allez comprendre. Vous pouvez blanchir vos cheveux. Mais si vous avez 35 ans, vous avez toujours 35 ans. Ouais. Votre âge ne va pas changer du tout au tout. Chaque chose a son rythme. Et quelquefois, il faut avancer selon le rythme de Dieu. N'essayons pas de précipiter les choses. Essayez de devenir parfait du jour au lendemain. Alors on pense qu'à force de se retirer ou de mener une vie monarcale ou d'ermitage, en quelque part, on va devenir comme Christ et puis on va changer et puis on se retire. Il y en a qui ont fait ça. Et puis se sont rendus compte que non, le Seigneur ne les appelait pas à ça. Entre-temps, ils auront gaspillé beaucoup de temps. Vous voyez? Donc, toute épreuve, toute adversité avec cette vision-là est considérée comme un manque de foi. Eh mais oui, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus d'adversité, oui ou non? Et comme les gens vivent ou veulent vivre le ciel sur terre, alors tout ce qui les contrarie ne devrait pas exister. Les défauts qu'il y a parmi les chrétiens ne devraient même pas exister. Non. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. En d'autres mots, je suis imparfait. Et lui seul devait savoir quel type d'imperfection contre lesquelles il se battait. Vous voyez? Un chrétien ne doit pas avoir des problèmes. C'est faux. L'existence des gens en elle-même est un problème. Oui ou non? Il n'y a qu'un mort qui n'a plus de problème. Pas qu'au derrière. L'impôt finit. Oui ou non? Mais oui, l'État ne va pas réclamer l'impôt, suivre la dépouille en disant non, 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 non. Non, 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 Zongawa. Pas du tout. La mort met un terme à toute action juridique ou autre, judiciaire. Tout s'arrête là. Hein? On ne va pas judiciariser quelqu'un, tout simplement parce que la personne a laissé des dettes, elle est morte et dit non, 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 non. Vous voyez? Certes, à l'époque, on pouvait assister à des condamnations posthumes, mais bon, ça change quoi? Peut-être pour les vivants en disant, oui, oui, on l'a condamné, mais la personne est déjà partie. Vous voyez? Donc, Paul rappelle à ces chrétiens, voyez-vous, mes amis, voilà, que nous sommes en route, nous ne sommes pas encore arrivés. Oui ou non? Et sur cette route-là, il y en a qui ont pris un certain rythme. J'avais déjà eu à prêcher. Un rythme de sprinter. Mais tu ne vas pas sprinter tout le temps. Tu vas t'épuiser. Vous voyez? Il arrivera des moments où tu vas simplement adopter le rythme de marathonnier pour souffler un peu. Alléluia. Alors quand vous voyez quelqu'un avoir des moments pour jeûner, etc., ne dites pas, ah, frère, tu n'es plus spirituel. Hein? Non. Il a pris le rythme marathonien. Il a tellement sprinté, il ne veut pas s'arrêter. Car ça sert à quoi? De sprinter à un certain moment, eh bien, on est essoufflé, on n'avance plus, et puis qu'est-ce qui arrive? On s'arrête. Et c'est là que l'ennemi nous attrape. Je préfère continuer à courir, même à un rythme marathonien, mais en avançant vers le prix. Oh, alléluia. Donc le prix, ce n'est pas sur cette terre. Le prix, c'est là-haut. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais ajoute-t-il, mais je poursuis ma course. Je poursuis ma sanctification. Je me bats contre tel aspect de ma personnalité, contre tel défaut qui empoisonne la vie de la communauté. J'en suis conscient et je pleure devant Dieu. Seigneur, libère-moi. Voyez-vous, ça devient un problème lorsqu'on trouve normal. Lorsqu'on s'arroge certains pouvoirs, de pouvoir faire mal aux gens et de ne rien ressentir en retour, ça devient un problème. Voyez-vous? Mais quand on est conscient, qu'on n'est pas parfait, qu'on peut arriver à faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, quand on a pris conscience, on va demander pardon. Voyez? En disant, voilà, ma sœur, je me souviens, l'autre fois, je t'ai interpellé, finalement, après vérification, je me rends compte que ce n'était pas toi. Je te présente mes excuses. Voilà comment on doit marcher. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Mais alors, tous égaux. Si tu as mal fait, demande pardon. Oui. Si tu as mal fait, tu demandes pardon et tu répares. Tu répares. Vous savez que ceux qui seront enlevés en ce jour-là, lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, ce sont ceux qui n'auront pas atteint la perfection, car personne ne peut l'atteindre. Mettez-vous ça en tête. Le Seigneur ne vient pas chercher les parfaits. Alors, Paul aurait raté l'enlèvement s'il avait vécu jusqu'à son retour, puisqu'il lui-même reconnaît que je n'ai pas encore atteint la perfection. Le Seigneur vient chercher ceux qui sont sur le chemin de la sanctification. Oh, alléluia! Ceux qui pensent avec lui, en reconnaissant leur faiblesse, en disant, Seigneur, débarrasse-moi de ça. Et jour après jour, ils deviennent conformes à son image. Alléluia. Ce sont ceux-là que le Seigneur viendra chercher. Gloire au Seigneur. Mes amis, l'Église ne saura jamais être parfaite. D'où nous n'avons pas à nous scandaliser de ses échecs. L'Église a échoué. Oh, c'est pas possible. Et pourtant, c'est l'Église du Seigneur. Oui, Même les églises qui ont été bâties par les apôtres, aujourd'hui, elles n'existent plus. Hein? Et les apôtres ont fait ce qu'ils ont pu. D'autres sont venus à leur suite. Et après, avec le temps, ces églises ont disparu. Si vous faites le tour de cette ville dans laquelle se trouvait l'église de Jésus-Christ, c'est cette église auquel il s'adresse dans le livre de l'Apocalypse. Il y a fort à parier que vous ne trouverez que des vestiges du passé. Vous allez à Éphèse, vous n'allez pas retrouver la communauté que Paul avait bâtie. Cette communauté à laquelle il avait adressé cet épître que nous appelons l'épître aux Éphésiens. Voyez, elle n'existe plus, il n'y a que des vestiges. Vous allez voir le reste du premier christianisme, etc. Voilà. Sachant cela, nous devons savoir qu'il y aura toujours des gens qui vont se joindre à nous, qui vont monter dans le bateau, et quand ils arrivent au Seigneur, ils ont des défauts, oui ou non. Ils ont des faiblesses. Alors, donnez-leur l'occasion d'avancer avec le Seigneur. Ne les pointez pas du doigt. « Oh, j'ai vu ce frère en train de fumer le chicha. » Il y a un truc là, une longue pipe. Ah oui, Biango. Vous voyez? Mais je l'ai vu à l'église. Mais oui, il est venu à l'église. Oui, il a déjà accepté le Seigneur. Mais il est dans tous ses débuts. Il est en train de tituber. N'est-ce pas? Il est en train de venir petit à petit. Il est encore faible. Prie pour lui, encourage-le. Mais ne le juge pas. Toi-même, il a fallu combien de temps pour que tu deviennes ce que tu es? Dites-moi. Oui. Si les gens avaient eu une attitude aussi dure, sévère, ferme, à ton égard, dans tes tout débuts, tu es venu, tu as fréquenté l'église, tout en continuant à fumer. Oui. Tu restais dans ta voiture, tu regardais à gauche, à droite sur le parking, tu tirais deux, trois coups et puis... Oui, oui. Et tu prenais un parfum ou un petit bonbon, hein? Ouais. Ok. Et puis tu descendais avec ta Bible sur les CCL. Ah, bonjour frère, ça va? Ouais. Si on t'avait jugé, tu serais reparti. Mais avec le temps, Dieu a fini par couper ce lien-là, par te débarrasser de cette passion destructrice. Faisons confiance, nous sommes sur la voie de la perfection, mais tout en sachant que nous ne l'atteindrons jamais, car le fait même d'être dans ce corps, c'est demeurer loin du Seigneur. Le fait d'être dans ce corps nous empêche d'être à chaque instant de notre vie en harmonie avec sa volonté. Car le péché, ce n'est pas seulement enfreindre la loi. Le péché, c'est aussi savoir ce qu'on doit faire et ne pas le faire. Hein? Vous vous rendez compte, hein? Si Dieu devait nous juger sur cette base, il n'y a personne qui serait là aujourd'hui. Hein? Oui. Parce que nous voyons que le péché de commission. On commet le péché. On enfreint la loi. Ah oui, mais le péché, c'est lui qui sait faire le bien. Et qui ne le fait pas? Combien de fois nous étions conscients que en faisant ça, eh bien, nous agirions comme il faut. Mais nous n'avons pas fait. Soit par honte, soit parce que nous n'avons pas voulu qu'on sache que nous sommes des chrétiens. Voyez? Et pourtant, Dieu ne nous a pas pris par la gorge pour nous dire, qu'est-ce que tu as fait là? Mais il a usé de compassion, de patience. Sa patience est salut pour nous. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Ainsi, notre seul souci qui doit nous animer, c'est qu'avec patience et persévérance, nous devons progresser dans la communion du Christ. Nous devons marcher et même courir. Alléluia. Allez, chacun son rythme. Voilà. Il y a des gens, quand ils arrivent au Seigneur, ils traînent derrière eux, mes amis, mille et une casseroles, remplies d'immoralité, remplies de tromperies. Rempli de crimes, rempli d'adultère, rempli, mes amis, d'idolâtrie, rempli de magie. Et ils arrivent ainsi. Voyez? Et puis, le Seigneur le reçoit. Il leur pardonne et tout ça. Et puis, il se met à les façonner, à les modeler petit à petit. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils avancent avec le Seigneur, les casseroles tombent. Alléluia. Ils se débarrassent de ces choses. Ça peut prendre longtemps. Pour d'autres, c'est peut-être au bout de 1 année, 2 ans, c'est fini. Mais d'autres, mes amis, il faut beaucoup de patience, beaucoup de temps. Voilà le premier danger. Et le dernier danger, je m'arrêterai là, très rapidement, c'est de vivre, mes amis, la terre sans le ciel. C'est un autre danger. C'est un danger qui consisterait à tellement se préoccuper d'ici-bas, eh bien, qu'on oublierait le ciel. C'est le danger, bien sûr, de la recherche du plaisir. Nous sommes dans le Seigneur. Tout appartient au Seigneur, et par conséquent, tout nous appartient. Alors, faisons-nous plaisir. Oui, ça, on peut se faire plaisir, hein. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Vous voyez, j'ai mis une belle veste. Pour la grande joie de mon épouse. Vous voyez? Mais je me suis fait un petit plaisir en mettant ça. Oui, on peut se faire plaisir. Ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas que le plaisir devienne le but suprême de la vie. Ce qu'on appelle l'hédonisme. Vous voyez? Les épicuriens affectionnaient ça. Le plaisir pour le plaisir. Voyez, puisque demain nous mourrons, alors aujourd'hui, que devons-nous faire? Mangeons et vivons. Voilà. Non. C'est le danger de la recherche du plaisir. Le danger de considérer la prospérité matérielle comme une finalité. Quand on est chrétien, on doit tout avoir. On doit avoir beaucoup d'argent, on doit avoir beaucoup de maisons. Moi, je me souviens d'un pasteur que j'ai connu. Un pasteur duquel j'avais un très bon témoignage. Quelque part, nous sommes croisés, en dehors, il y a des années. Il me dit, pasteur, des gens comme nous, nous devrions être plus riches que nos églises. Oh. Maintenant, un riche peut devenir pasteur, hein. Dieu peut appeler n'importe qui, vous êtes d'accord avec moi. Mais nous ne devrions pas courir après la richesse, la prospérité matérielle, considérer cela comme une priorité, ou même comme un symbole de réussite spirituelle. Quand on voit un frère ou une sœur qui matériellement respire, comme on dit, oh, celui-là a réussi. Mais oui, il a réussi, vous ne savez pas d'où il vient, comme je dis souvent. Nous ne sommes pas d'hier, hein. Voyez, derrière nous, nous avons tout un parcours, nous avons des années, nous marchons. Vous ne pouvez pas m'envier aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire, moi je voudrais être à sa place. Et même si Dieu m'avait dit dès le départ, le chemin, il m'avait fait comprendre le chemin par lequel je passerai, je peux vous assurer, et je suis sincère devant lui, je n'aurais pas accepté le ministère. Ma femme est là. On a vécu par la foi. Quelquefois, on ne savait pas ce qu'on allait manger en Europe pourtant. Mais on s'était dit, pas question de l'aide sociale de la part de l'État. Nous restons par la foi. Oh, alléluia. J'allais au cours à pied. J'ai marché 4-5 kilomètres avec une valisette pleine de livres. Voyez? Et pourtant, je prêchais l'évangile. J'annonçais l'évangile. Et je me souviens même, quelqu'un avait dit, hein, à des gens qui venaient dans notre église, que votre pasteur n'a pas de foi parce qu'il n'a pas de voiture. Et puis un jour, le Seigneur a touché quelqu'un. Notre première voiture, on nous l'a offerte. J'ai hésité, j'ai dit à ma femme, mais c'est bien de recevoir une voiture, mais il y a les entretiens, il faut payer ceci, il faut payer cela. On a prié, dit, bon, on y va par la foi. Comme ça, hein. Oui, ici, vous pouvez bricoler, mais ça ne joue pas en Europe, hein. Chaque année, vous devez passer au contrôle technique, hein. Ah oui. Chaque année, hein. Dès qu'il y a un problème, vous êtes recalé. Vous n'allez pas vous arranger avec le policier chef. Ce qui est formidable, quand on a pris la décision, eh bien, non seulement nous avons reçu, un frère nous dit, pasteur, je vais prendre et le frais du garage, d'entretien, et tout, et l'assurance. Chaque année, il a payé pendant des années, il est resté fidèle jusqu'au bout. Vous voyez, c'est ça. Il y a un temps pour tout. Qu'on ait une voiture, qu'on n'en ait pas, ça ne change rien. C'est pas ça qui fait la grandeur d'un homme aux yeux de Dieu. Le danger. On considère l'élévation, quelle qu'elle soit, comme un signe d'approbation de la part de Dieu. Oh, Dieu l'a élevé. Ça, c'est un thème qu'on trouve beaucoup, hein. Ce qui n'est pas vrai du tout. Vous savez, il y a une femme de lettres, je terminais par là. Une femme de lettres en France, je crois que c'est Mme Necker, qui a dit ceci. Il a dit ceci. Les places éminentes, les places élevées, hein, sont comme les rochers escarpés, où l'aigle et le reptile seuls parviennent. L'aigle et le reptile ou les serpents. Eux, ils arrivent jusqu'aux sommets escarpés. Ça veut dire quoi? Quelles sont ces places éminentes? Ce sont toutes ces places en rapport avec l'ascension sociale, n'est-ce pas? Ce sont toutes ces places qu'on envie. On veut être à la tête de son entreprise. On veut être à la tête de son parti. On veut être à la tête de telle institution. On veut être au sommet de ceci, etc. Toutes ces places-là, ces dames a dit, sont comme les rochers escarpés. Où n'importe qui ne peut pas arriver. Seul l'aigle, seul le reptile. Pourquoi? Eh bien, regardez. L'aigle, c'est le prédateur. Il arrive au sommet de ce rocher par la force et par l'audace. Notez bien, la force et l'audace. Voyez? Et quant au reptile ou au serpent, lui c'est le courtisan. Il arrive au sommet par la ruse et par la patience. Vous voyez? Donc vous pouvez prendre le chemin de l'aigle et connaître une élévation par la force. Vous bousculez tout le monde. Bah, bah, vous arrivez. Par l'audace. Oui, il faut oser. Il y a des gens qui sont audacieux. Hein. Vous savez, ils sont extrêmement prudents. Ils n'osent pas. Vous savez, vous devez savoir que la prudence n'est pas une vertu. C'est une qualité. C'est une qualité. C'est pas une vertu. Si la prudence était une vertu, alors l'immobilisme et l'inaction devraient être applaudis. Parce que la prudence vous amène à quoi? C'est dire, non, 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 ça sent l'oignon là-bas. Donc je n'y vais pas. Quand tu dis je n'y vais pas, tu restes, tu optes pour l'inaction, non? C'est la prudence. Ou alors, non, 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 je ne voudrais pas prendre ce chemin, il fait tout noir. Peut-être il y a quelques couloirs au coin. Tu optes pour la prudence. Donc, tu demeures dans l'inaction. Alors si la prudence était vertu, alors l'immobilisme et l'inaction devraient être applaudis. On ne ferait rien. C'est seulement une qualité. Alléluia. Donc, vous pouvez vous comporter comme l'aigle, secouer tout le monde par la force, bouger tout le monde de l'audace, arriver au sommet. Et vous êtes élevé. Vous pouvez aussi opter pour le courtisan, le serpent. Lui, il est très patient. Il attend que le rat passe. Oui ou non? Très patient. Vous voyez? Très patient. Il est là. Mais aussi, il est rusé. Voyez? Et c'est seulement ce prix-là. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est élevé que forcément Dieu l'a élevé. Vous pouvez vous comporter comme l'aigle. Maintenant, je ne vous demande pas de vous comporter comme l'aigle. Utilisez la force et l'audace pour arriver en bousculant tout le monde, tout ça. Je ne vous demande non plus d'utiliser la ruse. Voyez? Mais je vous dis simplement que quelqu'un peut utiliser la ruse et arriver à l'élévation. Voyez? Mais Paul nous rappelle que notre vraie patrie, c'est le ciel. Et notre ultime espérance, c'est le retour du Seigneur. Alléluia. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur alors attend de chacun de nous? C'est que nous vivions le ciel sur la terre. Alléluia. Voilà une vision équilibrée. Il y a le ciel, je le vis, mais tout en sachant que je suis encore sur terre. J'ai une épouse que je dois aimer, alors ça veut dire que je dois lui donner du temps. Ça veut dire que dans ma gestion du temps, il y a un temps que je donne à l'église, il y a un temps que je donne à la prière, à ceci, à cela, mais il y a aussi un temps que je lui réserve. C'est ça l'équilibre. Si vous n'optez pas pour l'équilibre, vous allez au-devant des problèmes. Et gloire au Seigneur. Et c'est à la croix que le ciel et la terre ont été, mes amis, réconciliés. Et pour donc vivre cette vision équilibrée, acceptons d'aller à la croix. À ce moment-là, nous marcherons avec une vision réaliste. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Nous voulons dire merci au Seigneur et en même temps prier pour l'offrande. Nous bénissons ton saint nom pour ce message. Aide-nous, Seigneur, à vivre avec une vision équilibrée, à ne pas nous comporter comme si nous étions déjà au ciel, mais à ne pas vivre non plus sur terre comme si c'était notre demeure éternelle, mais plutôt à mener une vie équilibrée, en ayant un pied dans le ciel, mais également un pied sur terre. Seigneur, cet équilibre, nous ne pouvons l'avoir que de ta part. Merci pour tout, pour ce message, et merci également pour, Seigneur, cette opportunité de pouvoir, oh Dieu, donner, Seigneur, comme offrande, donner comme dîme ou toute autre libéralité. Quel bonheur pour nous de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au soutien de ton œuvre. Bénis et sanctifie ces paniers alors qu'ils vont circuler. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce